Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, et vous, mes frères et sœurs en philosophie, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Voici le déroulé de cette nouvelle émission. En première partie, nous céderons la parole à notre très cher frère Michel Buffet, président du Conseil Spirit français, lequel aura le grand plaisir de répondre aux questions posées par un auditeur. En seconde partie, nous donnerons la parole à notre sœur Marie-Claude Savard du Centre d'études Allan Kardec, Paix et Amour de Québec au Canada, qui poursuivra avec vous la lecture de l'Évangile selon le spiritisme. Notre émission du jour se terminera par les séquences habituelles, à savoir l'agenda des activités spirites francophones, avis et communiqués de nos divers partenaires et une courte présentation de livres. Si vous avez des activités dont vous voulez faire la promotion, n'hésitez surtout pas. Nous vous invitons à communiquer avec nous. Nous nous ferons un plaisir d'informer nos auditeurs. De plus, nous incitons chacun et chacune à participer par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets. Vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France et le 0352 4 227 60 76 au départ du Grand-Duché de Luxembourg, ou tout simplement consulter notre site internet. Mais dans l'immédiat, nous vous souhaitons une très bonne écoute.
Chers auditeurs de Radio Kardec, bonjour. Un auditeur nous a posé la question. Qu'est-ce qui meurt en l'homme ? C'est le corps, bien entendu, comme l'explique le livre des esprits. Le Père Esprit est l'intermédiaire entre l'esprit et le corps. Lors de l'incarnation, le Père Esprit va utiliser l'ovule fécondé pour tisser des liens permettant de donner aux cellules, qui vont se multiplier, un organe et une fonction. L'esprit, grâce à cela, va pouvoir se rematérialiser dans notre monde, et au bout de 9 mois environ, prendre son indépendance en finissant sa matérialisation vers l'âge de 7 ans. C'est le Père Esprit qui va présider au renouvellement des cellules durant la vie. La désincarnation, c'est le processus inverse. Les liens vont se détacher plus ou moins rapidement, suivant le type de décès, et l'esprit avec son corps spirituel, le Père Esprit, vont reprendre leur indépendance dans le monde spirituel avec le détachement de la corde d'argent qui les unissait aux cellules du corps. André Louis nous montre que le détachement, cette séparation du corps spirituel d'avec le corps matériel, se fait quelque temps après la constatation de la mort physique. Les cellules du corps devenues indépendantes, sans organisation directrice, garderont quelque temps un élan vital de quelques minutes pour les neurones, à plusieurs jours pour les ongles ou les cheveux. Un autre auditeur nous pose une question qui est dans la même explication. Il demande comment la science spirite explique-t-elle la mort. La question 68 du livre des esprits, quelle est la cause de la mort chez les êtres organiques ? Réponse, épuisement des organes. Pourrait-on comparer la mort à la cessation du mouvement dans une machine désorganisée? Réponse des esprits, oui, si la machine est mal montée, le ressort casse. Si le corps est malade, la vie s'en va. Pourquoi une lésion du cœur plutôt que celle d'autres organes cause-t-elle la mort? Réponse, le cœur est une machine à vie, mais le cœur n'est pas le seul organe dont la lésion occasionne la mort. Ce n'est qu'un des rouages essentiels. Que deviennent la matière et le principe vital des êtres organiques à leur mort? Réponse, la matière inerte se décompose et en forme de nouveau. Le principe vital retourne à la masse. Une troisième question qui est sur le même sujet aussi. En quoi la connaissance de la mort peut-elle aider à comprendre la vie? D'après ce que nous venons de dire, ce que nous appelons la vie n'est que la durée de chacun dans nos passages sur terre. Car l'Esprit, lui, est créé par Dieu immortel, comme précisé à la question 83 du livre des Esprits. Ce que l'homme appelle la mort n'est que le retour de l'Esprit à son état naturel, dans le monde spirituel. L'incarnation étant une nécessité d'évolution et de réparation avec la loi de causalité. Question 132. Quel est le but de l'incarnation des esprits? Dieu la leur impose dans le but de les faire arriver à la perfection. Pour les uns, c'est une expiation. Pour d'autres, c'est une mission. Mais pour arriver à cette perfection, ils doivent subir toutes les vicissitudes de l'existence corporelle. C'est là qu'est l'expiation. L'incarnation a aussi un autre but, c'est de mettre l'esprit à même de supporter sa part dans l'œuvre de la création. C'est pour l'accomplir que dans chaque monde, il prend un appareil en harmonie avec la matière essentielle de ce monde pour y exécuter, à ce point de vue, les ordres de Dieu. De cette sorte, que tout en concourant à l'œuvre générale, il avance lui-même. L'action des êtres corporels est nécessaire à la marche de l'univers. Mais Dieu, dans sa sagesse, a voulu que, dans cette action même, il trouvasse un moyen de progresser et de se rapprocher de lui. C'est ainsi que, par une loi admirable de sa providence, tout s'enchaîne, tout est solidaire dans la nature. La connaissance de la mort n'est donc que la justification de la vie de l'esprit dans l'immortalité. Chers auditeurs de Radio Kardec, merci de votre attention.
Merci Michel. Aujourd'hui, notre sœur Marie-Claude nous invite à poursuivre la lecture de l'Évangile selon le spiritisme, chapitre 23, Morale étrange.
Chapitre 23, Morale étrange. Titre: qui ne hait pas son père et sa mère? Une grande troupe de peuple marchant avec Jésus, il se retourna vers eux et leur dit: si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Ainsi, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il a ne peut être mon disciple. Saint Luc, chapitre 14, versets 25, 26, 27 et 33. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Saint Matthieu, chapitre 10, verset 37. Certaines paroles, très rares du reste, font un contraste si étrange dans la bouche du Christ qu'instinctivement on en repousse le sens littéral, et la sublimité de sa doctrine n'en a subi aucune atteinte. Écrite après sa mort, puisque aucun évangile n'a été écrit de son vivant, il est permis de croire que, dans ce cas, le fond de sa pensée n'a pas été bien rendu, ou, ce qui n'est pas moins probable, c'est que le sens primitif a pu subir quelques altérations en passant d'une langue à l'autre. Il a suffi qu'une erreur fût faite une première fois pour qu'elle ait été répétée par les reproducteurs, comme cela se voit si souvent dans les faits historiques. Le mot « est » dans cette phrase de Saint Luc, « si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère », est dans ce cas, il n'est personne qui ait eu la pensée de l'attribuer à Jésus. Il serait donc superflu de le discuter et encore moins de chercher à le justifier. Il faudrait savoir, d'abord, s'il l'a prononcé, et, dans l'affirmative, savoir si, dans la langue dans laquelle il s'exprimait, ce mot avait la même valeur que dans la nôtre. Dans ce passage de Saint Jean, « celui qui hait sa vie dans ce monde la conserve pour la vie éternelle. » Il est certain qu'il n'exprime pas l'idée que nous y attachons. La langue hébraïque n'était pas riche et avait beaucoup de mots à plusieurs significations. Tel est, par exemple, celui qui, dans la Genèse, désigne les phases de la création et servait à la fois pour exprimer une période de temps quelconque et la révolution diurne. De là, plus tard, sa traduction par le mot « jour » et la croyance que le monde a été l'œuvre de 6 fois 24 heures, tel est encore le mot qui se disait d'un chameau et d'un câble, parce que les câbles étaient faits de poils de chameau, et qui a été traduit par chameau dans l'allégorie du trou d'aiguille. Chapitre 16, numéro 2. Il faut d'ailleurs tenir compte des mœurs et du caractère des peuples qui influent sur le génie particulier de leur langue. Sans cette connaissance, le sens véritable de certains mots échappe. D'une langue à l'autre, le même mot a plus ou moins d'énergie. Il peut être une injure ou un blasphème dans l'une et insignifiant dans l'autre, selon l'idée qu'on y attache. Dans la même langue, certains mots perdent leur valeur à quelques siècles de distance. C'est pour cela qu'une traduction rigoureusement latérale ne rend pas toujours parfaitement la pensée, et que, pour être exact, il faut parfois employer, non les mots correspondants, mais des mots équivalents ou des périphrases. Ces remarques trouvent une application spéciale dans l'interprétation des Saintes Écritures et des Évangiles en particulier. Si l'on ne tient pas compte du milieu dans lequel vivait Jésus, on est exposé à se méprendre sur la valeur de certaines expressions et de certains faits, par suite de l'habitude où l'on est d'assimiler les autres à soi-même. En tout état de cause, il faut donc écarter du mot « haïr » l'acception moderne comme contraire à l'esprit de l'enseignement de Jésus. Voir aussi chapitre 14, numéro 5 et suivant. Titre : Quitter son père, sa mère et ses enfants. Quiconque aura quitté pour mon nom sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, en recevra le centuple et aura pour héritage la vie éternelle. Saint Matthieu, chapitre 19, verset 29. Alors Pierre lui dit : Pour nous, vous voyez que nous avons tout quitté, et que nous vous avons suivi. Jésus leur dit : Je vous dis en vérité, personne ne quittera pour le royaume de Dieu, ou sa maison, ou son père et sa mère, ou ses frères, ou sa femme, ou ses enfants, qui ne reçoivent dès ce monde beaucoup d'avantages, et dans le siècle à venir la vie éternelle. Saint Luc, chapitre 18, versets 28, 29, 30. Un autre lui dit : Seigneur, je vous suivrai, mais permettez-moi de disposer auparavant de ce que j'ai dans ma maison. Jésus lui répondit : Quiconque ayant la main à la charrue regarde derrière lui n'est pas propre au royaume de Dieu. Saint Luc, chapitre 9, versets 61-62. Sans discuter les mots, il faut ici chercher la pensée qui était évidemment celle-ci. Les intérêts de la vie future l'emportent sur tous les intérêts et toutes les considérations humaines, parce qu'elle est d'accord avec le fond de la doctrine de Jésus, tandis que l'idée d'un renoncement à sa famille en serait la négation. N'avons-nous pas d'ailleurs sous nos yeux l'application de ces maximes dans le sacrifice des intérêts et des affections de famille dans la patrie? Blâme-t-on un fils de quitter son père, sa mère, ses frères, sa femme, ses enfants, pour marcher à la défense de son pays? Ne lui fait-on pas au contraire un mérite de s'arracher aux douceurs du foyer domestique, aux étreintes de l'amitié, pour accomplir un devoir? Il y a donc des devoirs qui l'emportent sur d'autres devoirs. La loi ne fait-elle pas une obligation à la fille de quitter ses parents pour suivre son époux? Le monde fourmille de cas où les séparations les plus pénibles sont nécessaires, mais les affections n'en sont pas brisées pour cela. L'éloignement ne diminue ni le respect, ni la sollicitude que l'on doit à ses parents, ni la tendresse pour ses enfants. On voit donc que, même prise à la lettre, sauf le mot « haïr », ces paroles ne seraient pas la négation du commandement qui prescrit d'honorer son père et sa mère, ni du sentiment de tendresse paternelle, à plus forte raison si l'on en prend l'esprit. Elle avait pour but de montrer, par une hyperbole, combien était impérieux le devoir de s'occuper de la vie future. Elle devait d'ailleurs être moins choquante chez un peuple et à une époque où, par suite des mœurs, les liens de famille avaient moins de force que dans une civilisation morale plus avancée. Ces liens, plus faibles chez les peuples primitifs, se fortifient avec le développement de la sensibilité et du sens moral. La séparation même est nécessaire au progrès. Il en est des familles, comme des races, elles s'abâtardissent s'il n'y a pas croisement, si elles ne se greffent pas les unes sur les autres. C'est une loi de nature autant dans l'intérêt du progrès moral que dans celui du progrès physique. Les choses ne sont envisagées ici qu'au point de vue terrestre. Le spiritisme nous les fait voir de plus haut, en nous montrant que les véritables liens d'affection sont ceux de l'esprit et non ceux du corps, que ces liens ne sont brisés ni par la séparation, ni même par la mort du corps, qu'ils se fortifient dans la vie spirituelle par l'épuration de l'esprit, vérité consolante qui donne une grande force pour supporter les vicissitudes de la vie. Chapitre 4, numéro 48, chapitre 14, numéro 8. Titre: Laissez aux morts le soin d'ensevelir leurs morts. Il dit à un autre: Suivez-moi. Et il lui répondit: Seigneur, permettez-moi d'aller auparavant ensevelir mon père. Jésus lui dit: Laissez aux morts le soin d'ensevelir leurs morts, mais pour vous, allez annoncer le royaume de Dieu. Saint Luc, chapitre 9, versets 59 et 60. Que peuvent signifier ces paroles? Laissez aux morts le soin d'ensevelir leurs morts. Les considérations qui précèdent montrent d'abord que, dans la circonstance où elles ont été prononcées, elles ne pouvaient exprimer un blâme contre celui qui regardait comme un devoir de piété filiale d'aller ensevelir son père. Mais elles renferment un sens profond qu'une connaissance plus complète de la vie spirituelle pouvait seule faire comprendre. La vie spirituelle, en effet, est la véritable vie. C'est la vie normale de l'esprit. Son existence terrestre n'est que transitoire et passagère. C'est une sorte de mort si on la compare à la splendeur et à l'activité de la vie spirituelle. Le corps n'est qu'un vêtement grossier que revêt momentanément l'esprit, véritable chaîne qui l'attache à la glèbe de la terre et dont il est heureux d'être délivré. Le respect que l'on a pour les morts ne s'attache pas à la matière, mais par le souvenir à l'esprit absent. Il est analogue à celui que l'on a pour les objets qui lui ont appartenu, qu'il a touchés et que ceux qui l'affectionnent gardent comme des reliques. C'est ce que cet homme ne pouvait comprendre de lui-même. Jésus le lui apprend en lui disant: « Ne vous inquiétez pas du corps, mais songez plutôt à l'esprit. Allez enseigner le royaume de Dieu. Allez dire aux hommes que leur patrie n'est pas sur la terre, mais dans le ciel, car là seulement est la véritable vie. » Titre: Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais la division. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu séparer l'homme d'avec son père, la fille d'avec sa mère, et la belle-fille d'avec sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemis ceux de sa maison. Saint Matthieu, chapitre 10, versets 34, 35, 36. Je suis venu pour jeter le feu dans la terre, et que, désirais-je, sinon qu'il s'allume. Je dois être baptisé d'un baptême, et combien je me sens pressé qu'il s'accomplisse. Croyez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, je vous assure, mais au contraire la division. Car désormais, s'il se trouve 5 personnes dans une maison, elles seront divisées les unes contre les autres. 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père sera en division avec le fils et le fils avec le père, la mère avec la fille et la fille avec la mère, la belle-mère avec la belle-fille et la belle-fille avec la belle-mère. Saint Luc, chapitre 12, versets de 49 à 53. Est-ce bien Jésus, la personnification de la douceur et de la bonté, lui qui n'a cessé de prêcher l'amour du prochain, qui a pu dire « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je suis venu séparer le fils du père, l'époux de l'épouse. Je suis venu jeter le feu sur la terre, et j'ai hâte qu'il s'allume. » Ces paroles ne sont-elles pas en contradiction flagrante avec son enseignement? N'y a-t-il pas blasphème à lui attribuer le langage d'un conquérant sanguinaire et dévastateur? Non, il n'y a ni blasphème, ni contradiction dans ses paroles, car c'est bien lui qui les a prononcées, et elles témoignent de sa haute sagesse. Seulement, la forme un peu équivoque ne rend pas exactement sa pensée, ce qui fait qu'on s'est mépris sur leur sens véritable. Prise à la lettre, elle tendrait à transformer sa mission, toute pacifique, en une mission de trouble et de discorde. Conséquence absurde que le bon sens fait écarter, car Jésus ne pouvait se démentir. Chapitre 14, numéro 6. Toute idée nouvelle rencontre forcément de l'opposition, et il n'en est pas une seule qui se soit établie sans lutte. Or, en pareil cas, la résistance est toujours en raison de l'importance des résultats prévus, parce que plus elle est grande, plus elle froisse d'intérêt. Si elle est notoirement fausse, si on la juge sans conséquence, personne ne s'en émeut, et on la laisse passer, sachant qu'elle n'a pas de vitalité. Mais si elle est vraie, si elle repose sur une base solide, si l'on entrevoit pour elle de l'avenir, un secret pressentiment avertit ses antagonistes qu'elle est un danger pour eux et pour l'ordre de choses au maintien duquel ils se sont intéressés. C'est pourquoi ils frappent sur elle et sur ses partisans. La mesure de l'importance et des résultats d'une idée nouvelle se trouve ainsi dans l'émotion qu'elle cause à son apparition, dans la violence de l'opposition qu'elle soulève, et dans le degré de la persistance de la colère de ses adversaires. Jésus venait proclamer une doctrine qui sapait par leur base les abus dont vivaient les pharisiens, les scribes et les prêtres de son temps. Aussi le firent-ils mourir, croyant tuer l'idée en tuant l'homme, mais l'idée survécut parce qu'elle était vraie. Elle grandit parce qu'elle était dans les desseins de Dieu. Et, sortie d'une obscure bourgade de la Judée, elle alla planter son drapeau dans la capitale même du monde païen, en face de ses ennemis les plus acharnés, de ceux qui avaient le plus d'intérêt à la combattre, parce qu'elle renversait des croyances séculaires auxquelles beaucoup tenaient bien plus par intérêt que par conviction. Là, des luttes plus terribles attendaient ses apôtres. Les victimes furent innombrables, mais l'idée grandit toujours et sortit triomphante, parce qu'elle l'emportait comme vérité sur ses devancières. Il est à remarquer que le christianisme est arrivé lorsque le paganisme était à son déclin et se débattait contre les lumières de la raison. On le pratiquait encore pour la forme, mais la croyance avait disparu. L'intérêt personnel seul le soutenait. Or, l'intérêt est tenace. Il ne cède jamais à l'évidence. Il s'irrite d'autant plus que les raisonnements qu'on lui oppose sont plus péremptoires et lui démontrent mieux son erreur. Il sait bien qu'il est dans l'erreur, mais ce n'est pas ce qui le touche, car la vraie foi n'est pas dans son âme. Ce qu'il redoute le plus, c'est la lumière qui ouvre les yeux des aveugles. Cette erreur lui profite, c'est pourquoi il s'y cramponne et la défend. Socrate n'avait-il pas, lui aussi, émis une doctrine analogue, jusqu'à un certain point, à celle du Christ? Pourquoi donc n'a-t-elle pas prévalu à cette époque, chez un des peuples les plus intelligents de la terre? C'est que le temps n'était pas venu. Il a semé dans une terre non labourée. Le paganisme ne s'était pas encore usé. Christ a reçu sa mission providentielle au temps propice. Tous les hommes de son temps n'étaient pas, tant s'en faut, à la hauteur des idées chrétiennes, mais il y avait une aptitude plus générale à se les assimiler, parce que l'on commençait à sentir le vide que les croyances vulgaires laissaient dans l'âme. Socrate et Platon avaient ouvert la voie et prédisposé les esprits. Voir introduction, paragraphe 4, Socrate et Platon, précurseurs de l'idée chrétienne et du spiritisme. Malheureusement, les adeptes de la nouvelle doctrine ne s'entendirent pas sur l'interprétation des paroles du maître, la plupart voilées sous l'allégorie et la figure. De là naquirent, dès le début, les sectes nombreuses qui prétendaient toutes avoir la vérité exclusive et que 18 siècles n'ont pu mettre d'accord. Oubliant le plus important des divins préceptes, celui dont Jésus avait fait la pierre angulaire de son édifice et la condition expresse du salut, la charité, la fraternité et l'amour du prochain. Ces sectes se renvoyèrent l'anathème et se ruèrent les unes sur les autres, les plus fortes écrasant les plus faibles, les étouffant dans le sang, dans les tortures et dans la flamme des bûchers. Les chrétiens, vainqueurs du paganisme, de persécutés se firent persécuteurs. C'est avec le fer et le feu qu'ils ont été plantés la croix de l'agneau, sans tache dans les deux mondes. C'est un fait constant que les guerres de religion ont été les plus cruelles et ont fait plus de victimes que les guerres politiques, et que dans aucune il ne s'est commis plus d'actes d'atrocité et de barbarie. La faute en est-elle à la doctrine du Christ? Non, certes, car elle condamne formellement toute violence. A-t-il dit quelque part à ses disciples, « Allez, tuez, massacrez, brûlez ceux qui ne croiront pas comme vous. » Non, car il leur a dit au contraire, « Tous les hommes sont frères, et Dieu est souverainement miséricordieux. Aimez votre prochain, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent. » Il leur a dit encore, « Qui tuera par l'épée, périra par l'épée. » La responsabilité n'en est donc point à la doctrine de Jésus, mais à ceux qui l'ont faussement interprété et en ont fait un instrument pour servir leur passion, à ceux qui ont méconnu cette parole, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Jésus, dans sa profonde sagesse, prévoyait ce qui devait arriver. Mais ces choses étaient inévitables parce qu'elles tenaient à l'infériorité de la nature humaine qui ne pouvait se transformer tout à coup. Il fallait que le christianisme passât par cette longue et cruelle épreuve des 18 siècles pour montrer toute sa puissance, car, malgré tout le mal commis en son nom, il en est sorti pur. Jamais il n'a été mis en cause. Le blâme est toujours retombé sur ceux qui en ont abusé. À chaque acte d'intolérance, on a toujours dit, si le christianisme était mieux compris et mieux pratiqué, cela n'aurait pas lieu. Lorsque Jésus dit « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix, mais la division », sa pensée était celle-ci. « Ne croyez pas que ma doctrine s'établisse paisiblement. Elle amènera des luttes sanglantes, dont mon nom sera le prétexte parce que les hommes ne m'auront pas compris ou n'auront pas voulu me comprendre. Les frères, séparés par leur croyance, tireront l'épée l'un contre l'autre. Et la division régnera entre les membres d'une même famille qui n'auront pas la même foi. Je suis venu jeter le feu sur la terre pour la nettoyer des erreurs et des préjugés, comme on met le feu dans un champ pour en détruire les mauvaises herbes. Et j'ai hâte qu'il s'allume pour que l'épuration soit plus prompte, car de ce conflit la vérité sortira triomphante. À la guerre succédera la paix, à la haine des partis, la fraternité universelle, aux ténèbres du fanatisme, la lumière de la foi éclairée. Alors, quand le champ sera préparé, je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit de vérité, qui viendra rétablir toutes choses. C'est-à-dire qu'en faisant connaître le vrai sens de mes paroles que les hommes plus éclairés pourront enfin comprendre, il mettra fin à la lutte fratricide qui divise les enfants d'un même Dieu. Là, enfin, d'un combat sans issue, qui ne traîne à sa suite que la désolation et porte le trouble jusque dans le sein des familles, les hommes reconnaîtront où sont leurs véritables intérêts pour ce monde et pour l'autre. Ils verront de quel côté sont les amis et les ennemis de leur repos. Tous alors viendront s'abriter sous le même drapeau, celui de la charité, et les choses seront rétablies sur la terre selon la vérité et les principes que je vous ai enseignés. Le spiritisme vient réaliser au temps voulu les promesses du Christ. Cependant, il ne peut le faire sans détruire les abus. Comme Jésus, il rencontre sur ses pas l'orgueil, l'égoïsme, l'ambition, la cupidité, le fanatisme aveugle qui, traqués dans leur dernier retranchement, tentent de lui barrer le chemin et lui suscitent des entraves et des persécutions. C'est pourquoi il lui faut aussi combattre, mais le temps des luttes et des persécutions sanglantes est passé. Celles qu'il aura à subir sont toutes morales, et le terme en est rapproché. Les premières ont duré des siècles, celles-ci dureront à peine quelques années, parce que la lumière, au lieu de partir d'un seul foyer, jaillit sur tous les points du globe, et ouvrira plutôt les yeux des aveugles. Ces paroles de Jésus doivent donc s'entendre des colères qu'il prévoyait que sa doctrine allait soulever, des conflits momentanés qui allaient en être la conséquence, des luttes qu'elle allait avoir à soutenir avant de s'établir, comme il en fut des Hébreux avant leur entrée dans la terre promise, et non d'un dessein prémédité de sa part de semer le désordre et la confusion. Le mal devait venir des hommes et non de lui. Il était comme le médecin qui vient guérir, mais dont les remèdes provoquent une crise salutaire en remuant les humeurs malsaines du malade.
Terminons notre lecture du jour par le chapitre 24 de l'Évangile selon le spiritisme. Ne mettez pas la lampe sous le boiseau.
Chapitre 24. Ne mettez pas la lampe sous le boiseau. Titre. Lampe sous le boiseau. Pourquoi Jésus parle en parabole? On n'allume point une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais on la met sur un chandelier afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Saint Matthieu, chapitre 5, verset 15. Il n'y a personne qui, après avoir allumé une lampe, la couvre d'un vase ou la mette sous un lit. Mais on la met sur le chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'y a rien de secret qui ne doive être découvert, ni rien de caché qui ne doive être connu et paraître publiquement. Saint Luc, chapitre 8, versets 16-17. Ses disciples, s'approchant, lui dirent, « Pourquoi leur parlez-vous en parabole? » Et leur répondant, il leur dit, « C'est parce que, pour vous autres, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais pour eux, il ne leur a pas été donné. Je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en écoutant, ils n'entendent ni ne comprennent point. Et la prophétie d'Isaïe s'accomplira en eux lorsqu'il dit, « Vous écouterez de vos oreilles, et vous n'entendrez point. Vous regarderez vos yeux, et vous ne verrez point. » Car le cœur de ce peuple s'est appesanti, et leurs oreilles sont devenues sourdes. Et ils ont fermé leurs yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, et que, s'étant convertis, je ne les guérisse. Saint Matthieu, chapitre 8, versets de 10 à 15. On s'étonne d'entendre Jésus dire qu'il ne faut pas mettre la lumière sous le boiseau, tandis que lui-même cache sans cesse le sens de ses paroles sous le voile de l'allégorie qui ne peut être comprise de tous. Il s'explique en disant à ses apôtres, « Je leur parle en parabole parce qu'ils ne sont pas en état de comprendre certaines choses. Ils voient, regardent, entendent et ne comprennent pas. Leur tout dire serait donc inutile pour le moment. Mais à vous, je vous le dis, parce qu'il vous est donné de comprendre ces mystères. » Il agissait donc avec le peuple comme on le fait avec des enfants dont les idées ne sont pas encore développées. Par là, il indique le véritable sens de la maxime. Il ne faut pas mettre la lampe sous le boiseau, mais sur le chandelier afin que tous ceux qui entrent puissent la voir. Elle ne signifie point qu'il faut inconsidérément révéler toutes les choses. Tout enseignement doit être proportionné à l'intelligence de celui à qui l'on s'adresse, car il est déjà qu'une lumière trop vive éblouit sans les éclairer. Il en est des hommes en général, comme des individus. Les générations ont leur enfance, leur jeunesse et leur âge mûr. Chaque chose doit venir en son temps, et la graine semée hors de saison ne fructifie pas. Mais ce que la prudence commande de taire momentanément doit tôt ou tard être découvert, parce que, arrivé à un certain degré de développement, les hommes recherchent eux-mêmes la lumière vive, l'obscurité leur pèse. Dieu leur ayant donné l'intelligence pour comprendre et pour se guider dans les choses de la terre et du ciel, ils veulent raisonner leur foi. C'est alors qu'il ne faut pas mettre la lampe sous le boiseau, car sans la lumière de la raison, la foi s'affaiblit. Chapitre 19, numéro 7. Si donc, dans sa prévoyante sagesse, la Providence ne révèle les vérités que graduellement, elle les découvre toujours à mesure que l'humanité est mûre pour les recevoir. Elle les tient en réserve et non sous le boisseau, mais les hommes qui en sont en possession ne les cachent la plupart du temps au vulgaire qu'en vue de le dominer. Ce sont eux qui mettent véritablement la lumière sous le boisseau. C'est ainsi que toutes les religions ont eu leur mystère dont elles interdisaient l'examen. Mais tandis que ces religions restaient en arrière, la science et l'intelligence ont marché et ont déchiré le voile mystérieux. Le vulgaire devenu adulte a voulu pénétrer le fond des choses et alors il a rejeté de sa foi ce qui était contraire à l'observation. Il ne peut y avoir de mystère absolu. Et Jésus est dans le vrai quand il dit qu'il n'y a rien de secret qui ne doive être connu. Tout ce qui est caché sera découvert un jour, et ce que l'homme ne peut encore comprendre sur la terre lui sera successivement dévoilé dans des mondes plus avancés. Et lorsqu'il sera purifié, ici-bas, il est encore dans le brouillard. On se demande quel profit le peuple pouvait retirer de cette multitude de paraboles dont le sens restait caché pour lui. Il est à remarquer que Jésus ne s'est exprimé en paraboles que sur les parties en quelque sorte abstraites de sa doctrine. Mais ayant fait de la charité envers le prochain et de l'humilité la condition expresse du salut, tout ce qu'il a dit à cet égard est parfaitement clair, explicite et sans ambiguïté. Il en devait être ainsi, parce que c'était la règle de conduite, règle que tout le monde devait comprendre pour pouvoir l'observer. C'était l'essentiel pour la multitude ignorante à laquelle il se bornait à dire « Voilà ce qu'il faut faire pour gagner le royaume des cieux. » Sur les autres parties, il ne développait sa pensée qu'à ses disciples. Ceux-ci étant plus avancés moralement et intellectuellement, Jésus avait pu les initier à des vérités plus abstraites. C'est pourquoi il dit, à ceux qui ont déjà, il sera donné encore davantage. Chapitre 18, numéro 15. Cependant, même avec ses apôtres, il est resté dans le vague sur beaucoup de points dont la complète intelligence était réservée à des temps ultérieurs. Ce sont des points qui ont donné lieu à des interprétations si diverses jusqu'à ce que la science, d'un côté et le spiritisme de l'autre, soit venu révéler les nouvelles lois de nature qui en ont fait comprendre le véritable sens. Le spiritisme vient aujourd'hui jeter la lumière sur une foule de points obscurs. Cependant, il ne la jette pas inconsidérément. Les esprits procèdent dans leur instruction avec une admirable prudence. Ce n'est que successivement et graduellement qu'ils ont abordé les diverses parties connues de la doctrine, et c'est ainsi que les autres parties seront révélées au fur et à mesure que le moment sera venu de les faire sortir de l'ombre. S'ils l'eussent présentée complète dès le début, elle n'eût été accessible qu'à un petit nombre. Elle eût même effrayé ceux qui n'y étaient pas préparés, ceux qui auraient nui à sa propagation. Si donc les esprits ne disent pas encore tout ostensiblement, ce n'est point qu'il n'y ait dans la doctrine des mystères réservés à des privilégiés, ni qu'ils mettent la lampe sous le boisseau, mais parce que chaque chose doit venir en temps opportun. Ils laissent à une idée le temps de mûrir et de se propager avant d'en présenter une autre, et aux événements celui d'en préparer l'acceptation. Titre. N'allez point voir vers les gentils. Jésus envoya ses 12, les apôtres, après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez point vers les gentils, et n'entrez point dans les villes des Samaritains, mais allez plutôt aux brebis perdues de la maison d'Israël, et dans les lieux où vous irez, prêchez en disant que le royaume des cieux est proche. Saint Matthieu, chapitre 10, versets 5, 6 et 7. Jésus prouve en maintes circonstances que ses vues ne sont point circonscrites au peuple juif, mais qu'elles embrassent toute l'humanité. Si donc il dit à ses apôtres de ne point aller chez les païens, ce n'est pas par dédain pour la conversion de ceux-ci, ce qui eût été peu charitable, mais parce que les Juifs qui croyaient en l'unité de Dieu et attendaient le Messie étaient préparés par la loi de Moïse et les prophètes à recevoir sa parole. Chez les païens, la base même manquant, tout était à faire, et les apôtres n'étaient point encore assez éclairés pour une aussi lourde tâche. C'est pourquoi il leur dit, « Allez aux brebis égarées d'Israël, c'est-à-dire allez semer dans un terrain déjà défriché, sachant bien que la conversion des gentils viendrait en son temps. » Plus tard, en effet, c'est au centre même du paganisme que les apôtres allèrent planter la croix. Ces paroles peuvent s'appliquer aux adeptes et aux propagateurs du spiritisme. Les incrédules systématiques, les railleurs obstinés, les adversaires intéressés sont pour eux ce qu'étaient les gentils pour les apôtres. À l'exemple de ceux-ci, qu'ils cherchent d'abord des prosélytes parmi les gens de bonne volonté, ceux qui désirent la lumière, en qui on trouve un germe fécond, et le nombre en est grand, sans perdre leur temps avec ceux qui refusent de voir et d'entendre, et se roidissent d'autant plus par orgueil qu'on paraît attacher plus de prix à leur conversion. Mieux vaut ouvrir les yeux à 100 aveugles qui désirent voir clair, qu'à un seul qui se complaît dans l'obscurité, parce que c'est augmenter le nombre des soutiens de la cause dans une plus grande proportion. Laisser les autres tranquilles n'est pas de l'indifférence, mais de la bonne politique. Leur tour viendra quand ils seront dominés par l'opinion générale et qu'ils entendront la même chose sans cesse répétée autour d'eux. Alors ils croiront accepter l'idée volontairement et d'eux-mêmes et non sous la pression d'un individu. Puis il en est des idées comme des semences, elles ne peuvent germer avant la saison et seulement dans un terrain préparé. C'est pourquoi il est mieux d'attendre le temps propice et de cultiver d'abord celles qui germent, de crainte de faire avorter les autres en les poussant trop. Au temps de Jésus et par suite des idées restreintes et matérielles de l'époque, tout était circonscrit et localisé. La maison d'Israël était un petit peuple, les gentils étaient de petits peuples environnants. Aujourd'hui, les idées s'universalisent et se spiritualisent. La lumière nouvelle n'est le privilège d'aucune nation. Pour elle, il n'existe plus de barrière, elle a son foyer partout, et tous les hommes sont frères. Mais aussi les gentils ne sont plus un peuple, c'est une opinion que l'on rencontre partout, et dont la vérité triomphe peu à peu, comme le christianisme a triomphé du paganisme. Ce n'est plus avec les armes de guerre qu'on les combat, mais avec la puissance de l'idée. Titre. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Jésus étant à table dans la maison de cet homme, Matthieu, il y vint beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie qui se mirent à table avec Jésus et ses disciples. Ce que les pharisiens ayant vu, ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec des publicains et des gens de mauvaise vie? » Mais Jésus les ayant entendus, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, mais les malades qui ont besoin de médecins. Saint Matthieu, chapitre 9, versets 10, 11, 12. Jésus s'adressait surtout aux pauvres et aux déshérités, parce que ce sont eux qui ont le plus besoin de consolation, aux aveugles dociles et de bonne foi, parce qu'ils demandent à voir, et non aux orgueilleux qui croient posséder toute lumière et n'avoir besoin de rien. Cette parole, comme tant d'autres, trouve son application dans le spiritisme. On s'étonne parfois que la médiumnité soit accordée à des gens indignes et capables d'en faire un mauvais usage. Il semble, dit-on, qu'une faculté si précieuse devait être l'attribut exclusif des plus méritants. Disons d'abord que la médiumnité tient à une disposition organique dont tout homme peut être doué comme celle de voir, d'entendre, de parler. Il n'en est pas une dont l'homme, en vertu de son libre arbitre, ne puisse abuser, et si Dieu n'avait accordé la parole, par exemple, qu'à ceux qui sont incapables de dire de mauvaises choses, il y aurait plus de muets que de parlants. Dieu a donné à l'homme des facultés, il le laisse libre d'en user, mais il punit toujours ceux qui en abusent. Si le pouvoir de communiquer avec les esprits n'était donné qu'aux plus dignes, quel est celui qui oserait y prétendre? On serait d'ailleurs la limite de la dignité et de l'indignité. La médiumnité est donnée sans distinction afin que les esprits puissent porter la lumière dans tous les rangs, dans toutes les classes de la société, chez le pauvre comme chez le riche, chez les sages pour les fortifier dans le bien, chez les vicieux pour les corriger. Ces derniers ne sont-ils pas les malades qui ont besoin du médecin? Pourquoi Dieu, qui ne veut pas la mort du pécheur, le priverait-il du secours qui peut le tirer du bourbier? Les bons esprits lui viennent donc en aide, et leurs conseils qu'il reçoit directement sont de nature à l'impressionner plus vivement que s'il les recevait par des voies détournées. Dieu, dans sa bonté, pour lui épargner la peine d'aller chercher la lumière au loin, l'allumait dans la main. N'est-il pas bien plus coupable de ne pas la regarder? Pourra-t-il s'excuser sur son ignorance quand il aura écrit lui-même, vu de ses yeux, entendu de ses oreilles, et prononcé de sa bouche sa propre condamnation? S'il ne profite pas, c'est alors qu'il est puni par la perte ou par la perversion de sa faculté dont les mauvais esprits s'emparent pour l'obséder et le tromper, sans préjudice des afflictions réelles dont Dieu frappe ses serviteurs indignes et les cœurs endurcis par l'orgueil et l'égoïsme. La médiumnité n'implique pas nécessairement des rapports habituels avec les esprits supérieurs. C'est simplement une aptitude à servir d'instrument plus ou moins souple aux esprits en général. Le bon médium n'est donc pas celui qui communique facilement, mais celui qui est sympathique aux bons esprits et n'est assisté que par eux. C'est en ce sens seulement que l'excellence des qualités morales est toute puissante sur la médiumnité. Titre: Courage de la foi. Quiconque me confessera et me reconnaîtra devant les hommes, je le reconnaîtrai et confesserai aussi moi-même devant mon Père qui est dans les cieux. Et quiconque me renoncera devant les hommes, je le renoncerai aussi moi-même devant mon Père qui est dans les cieux. Saint Matthieu, chapitre 10, versets 32-33. Si quelqu'un rougit de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme rougira aussi de lui, lorsqu'il viendra dans sa gloire et dans celle de son Père et des saints anges. Saint Luc, chapitre 9, verset 26. Le courage de l'opinion a toujours été tenu en estime parmi les hommes parce qu'il y a du mérite à braver les dangers, les persécutions, les contradictions et même les simples sarcasmes auxquels s'expose presque toujours celui qui ne craint pas d'avouer hautement des idées qui ne sont pas celles de tout le monde. Ici, comme en tout, le mérite est en raison des circonstances et de l'importance du résultat. Il y a toujours faiblesse à reculer devant les conséquences de son opinion et à la renier. Mais il est des cas où c'est une lâcheté aussi grande que de fuir au moment du combat. Jésus flétrit cette lâcheté, au point de vue spécial dessus de sa doctrine, en disant que si quelqu'un rougit de ses paroles, il rougira aussi de lui. Qu'il reniera celui qui l'aura renié, que celui qui le confessera devant les hommes, il le reconnaîtra devant son Père qui est dans les cieux. En d'autres termes, ceux qui auront craint de s'avouer disciples de la vérité ne sont pas dignes d'être admis dans le royaume de la vérité. Ils perdront le bénéfice de leur foi parce que c'est une foi égoïste qu'ils gardent pour eux-mêmes, mais qu'ils cachent de peur qu'elle ne leur porte préjudice en ce monde. Tandis que ceux qui, mettant la vérité au-dessus de leur intérêt matériel, la proclament ouvertement, travaillent en même temps pour leur avenir et celui des autres. Ainsi en sera-t-il des adeptes du spiritisme, puisque leur doctrine n'est autre que le développement et l'application de celle de l'Évangile. C'est à eux aussi que s'adressent les paroles du Christ. Ils sèment sur la terre ce qu'ils récolteront dans la vie spirituelle. Là, ils recueilleront les fruits de leur courage ou de leur faiblesse. Titre: Porter sa croix. Qui voudra sauver sa vie la perdra. Vous êtes bien heureux lorsque les hommes vous haïront, qu'ils vous sépareront, qu'ils vous traiteront injurieusement, qu'ils rejetteront votre nom comme mauvais à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là, et soyez ravis de joie, parce qu'une grande récompense vous est réservée dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Saint Luc, chapitre 6, versets 22-23. En appelant à soi le peuple avec ses disciples, il leur dit: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra se sauver soi-même se perdra, et celui qui se perdra pour l'amour de moi et de l'Évangile se sauvera. En effet, que servirait à un homme de gagner tout le monde et de se perdre soi-même? Saint Marc, chapitre 8, versets de 34 à 36. Saint Luc, chapitre 9, versets 23, 24, 25. Saint Matthieu, chapitre 10, verset 39. Saint Jean, chapitre 13, versets 24, 25. Réjouissez-vous, dit Jésus, quand les hommes vous haïront et vous persécuteront à cause de moi, parce que vous en serez récompensés dans le ciel. Ces paroles peuvent se traduire ainsi. Soyez heureux quand des hommes, par leur mauvais vouloir à votre égard, vous fournissent l'occasion de prouver la sincérité de votre foi, car le mal qu'ils vous font tourne à votre profit. Plaignez-les donc de leur aveuglement et ne les maudissez pas. Puis il ajoute « Que celui qui veut me suivre porte sa croix, c'est-à-dire qu'il supporte courageusement les tribulations que sa foi lui suscitera. Car celui qui voudra sauver sa vie et ses biens en me renonçant perdra les avantages du royaume des cieux, tandis que ceux qui auront tout perdu ici-bas, même la vie, pour le triomphe de la vérité, recevront dans la vie future le prix de leur courage, de leur persévérance et de leur abnégation. Mais à ceux qui sacrifient les biens célestes aux jouissances terrestres, Dieu dit, « Vous avez déjà reçu votre récompense. »
Nous voici arrivés à l'agenda des activités spirites francophones organisées en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg et en France. En Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, rien n'est prévu pour le moment, étant entendu que la plupart des activités signalées dans nos précédentes émissions viennent juste de se terminer. En France, à Grézieux-la-Varenne, l'association du chemin propose le samedi 25 juin 2011 dès 14h30 une conférence sur le thème de la transcommunication instrumentale. La participation aux frais sera de 8 euros. L'adresse du jour, salle AEP, 5 rue de l'Artisanat, à 69 290 Grézieux-la-Varenne. Renseignements et inscriptions par la voie téléphonique informant depuis la France, le 09 50 69 26 10 ou directement via le site de l'association à l'adresse suivante www.le-chemin.org. À Paris, l'association parisienne d'études spirites nous prie de vous communiquer leur programme d'activité en cette fin de mois de juin. Vendredi 24 juin, de 20h à 22h, puissance de la pensée, une porte d'accès à la conscience spirituelle. Le samedi 25 juin, de 15h à 17h, l'assistance aux familles en deuil, un travail d'écoute. Pour plus d'informations, merci de bien vouloir prendre contact en formant depuis la France le 0 141 931 708 et sur le site internet www.apes.asso.fr. À Agen, le Conseil Spirit français nous prie de vous informer des dates et du lieu de son prochain symposium. Celui-ci aura lieu les 24 et 25 septembre 2011 de 9h30 à 18h à Agen, département 47 en France. Le thème central sera les centres spirites, l'unification. L'adresse du jour sera salle Picasso et Terle, rue Paul Ponce, à 47 000 Agen, proche du stadium. Pour renseignements complémentaires et vos inscriptions, merci de bien vouloir prendre contact en formant depuis la France le 06 21 42 58 60 ou via courriel à l'adresse suivante jean-pierre.pipineau@conseil-spirit.fr. Le mouvement spirit francophone vous prie de bien vouloir vous informer des dates et du lieu de son prochain congrès francophone de médecine et de spiritualité. Celui-ci s'effectuera les 29 et 30 octobre 2011 à la salle Bruxelles de la FIAP Jean Monnet, 30 rue Cabani à Paris. De plus amples informations seront bientôt disponibles sur le site du MSF via l'adresse suivante http://congrès.lmsf.org. Nous voici arrivés à notre toute nouvelle séquence réservée à la présentation de livres spirites. Aujourd'hui, nous vous dirons quelques mots sur deux livres qui viennent juste de sortir de presse. Ils sont tous deux édités par le mouvement Spirit francophone en collaboration avec la librairie Spirit francophone. Le premier porte le titre « Comprendre le spiritisme » et le second « Chronique d'un centre spirit ». Comprendre le spiritisme. Spiritisme. Peu de mots sont l'objet d'une telle charge émotionnelle. À sa simple audition, certains font déjà référence à la sorcellerie ou au satanisme, d'autres l'associent à la tablette de Ouija ou au jeu de verre. Certains éprouvent de la curiosité, d'autres se renferment dans l'indifférence. Certains y voient une source potentielle de revenus, d'autres encore y voient une possible solution pour leurs problèmes existentiels ou physiques, devant lesquels la science actuelle est impuissante. Combien l'associe à une philosophie spiritualiste? En Europe, très peu. Au Brésil, il compte près de 30 millions de sympathisants et autant d'ouvrages vendus d'Allan Kardec, son codificateur. Loin des clichés populaires et de toute idée préconçue, nous verrons à travers les lignes de ce petit fascicule ce qu'est réellement le spiritisme à travers ses 150 ans d'histoire. Nous verrons sa gestation en Europe, puis en Amérique du Nord, sa naissance en France, puis son développement dans les pays latins et notamment au Brésil. Le second est écrit par un esprit, Nora. Il s'appelle « Chronique d'un centre spirit ». Ce livre a été écrit par un procédé assez inusité en Europe, voire invraisemblable. Il a été psychographié par un médium. Cela signifie que l'auteur de cet ouvrage est un être spirituel, un esprit, qui a utilisé la main du médium tel un instrument pour dicter ce livre. Bien que le spiritisme ait été codifié en France au milieu du XIXe siècle par Allan Kardec, c'est au Brésil qu'il s'est le plus développé et épanoui à ce jour. Il existe en ce début des années 2000 entre 10 000 et 15 000 centres spirites au Brésil et des livres psychographiés sont disponibles dans toutes les librairies. Depuis quelques années, un nouvel enjouement pour le spiritisme est apparu en France et des centres spirites se créent chaque année. Ces regroupements associatifs sont précisément le thème de ce livre. Mais ici s'arrête ma présentation du jour, car ils seront prochainement disponibles dans vos centres. Alors, bonne acquisition et surtout bonne lecture. À bientôt. Avis aux personnes et associations. Vous êtes responsable d'un groupe, d'une association ou simple particulier. Vous connaissez des personnes qui aimeraient en savoir plus sur la philosophie spirit. Vous avez un local, une pièce où vous pouvez nous en renseigner un. Si vous le souhaitez, nous pouvons venir faire une conférence de divulgation dans votre région afin de vous informer sur ce qu'est réellement la philosophie spirit et toutes les valeurs morales qu'elle renferme. Mieux encore, il n'y a pas de groupe spirit dans votre région. Vous avez envie d'en former un. Nous pouvons vous y aider en vous apportant un support didactique et humain pour la formation de celui-ci, même familial. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter par courrier ou courriel à l'adresse suivante, Union Spirit Belge 43 rue Maguin à 4000 Liège ou par courriel usb@spirit.be. Cette émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Allan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser ces questions par email, de manière tout à fait anonyme, si vous le souhaitez, à l'adresse radio@spirit.be. Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 00 32 4 227 60 76 est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors d'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez nous envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt.